Dieu vous bénisse. Bonjour à ceux qui nous regardent à la télé aussi et à ceux qui nous écoutent sur Internet. Vous m'entendez bien, ça va? Merci Seigneur. On va faire une lecture dans Jean chapitre 3, verset 12. C'est Jésus qui parle et qui dit: si vous ne croyez pas lorsque je parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Amen. Dimanche passé et vendredi soir, je vous ai parlé au sujet des indésirables. J'aime mieux dire les indésirables que les démons, ou les esprits des morts, ou les mauvais esprits, tout ça. Je préfère dire les indésirables, parce que c'est ce qu'ils sont, des indésirables. Je vous parlais donc des indésirables qu'on attire en leur fournissant de la nourriture. Qui a entendu ça? Vous avez tous entendu ça. Alors donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Et si vous n'avez pas entendu cela, vous qui êtes sur Internet, ben vous avez tous sur Révélation Bible, vous remontez un peu en arrière. C'était dimanche passé et ce vendredi soir. Alors je vous disais principalement que nos pensées négatives, nos pensées impures, nos pensées incrédules, nos pensées défaitistes. Oh, j'ai une très jolie phrase au sujet des pensées défaitistes. J'ai vu ça dans un feuilleton à la télé. C'est une vieille dame très digne, une vieille anglaise qui dit: mais voyons ma chère, ne soyez pas défaitiste, ça fait très classe moyenne. J'ai trouvé que ça c'était excellent. Je vous le donne, défaitiste. Je vous disais donc que principalement ce sont nos pensées qui nourrissent les indésirables, les mauvais esprits. Et que cette nourriture que nous cultivons et que nous laissons traîner, nos pensées et tout ça, eh bien ça les attire et qu'ils viennent pour s'en nourrir. Et ils viennent en vous et ils vivent à vos dépens. Ça ne vous fait aucun bien, mais eux par contre, ils se régalent. Et ils viennent avec leurs copains, ils viennent avec toutes sortes d'autres entités. Et puis voilà, ça devient de pire en pire. Aujourd'hui, plus que jamais, eh bien nous savons que les gens sont tellement habitués à vivre et à rester en surface des choses que ça devient très difficile de leur faire comprendre l'importance de leur pensée. Or, c'est dans la pensée que se trouvent toutes les possibilités. En fait, c'est dans les pensées, il n'y a aucune autre activité qui soit plus importante pour vous procurer soit la paix, soit la discorde intérieure, extérieure et tout. Je vous parlais de la nature, des choses de la terre. Jésus dit, si je vous parle des choses de la terre, vous ne croyez pas, alors qu'est-ce que ça va être quand je vais vous parler des choses du ciel? Je vous parlais donc de la nature, et si vous regardez comment on fait pour tirer de la nature, des choses qui sont dans la nature, des choses précieuses, c'est tout un travail, vous allez comprendre, si vous pouvez comprendre ça, vous allez comprendre comment tirer de bonnes choses dans votre vie. Parce que les pensées, en fait, je vais mettre ça entre guillemets, c'est la substance qui se trouve entre la terre et le ciel. C'est comme une matière, ça dégage quelque chose. Il y a on pourrait dire une onde, une vibration, je ne sais pas comment on peut dire. Mais enfin, ça se mesure avec des appareils. Maintenant, quand on pense, on peut voir que la personne, ça vibre là-dedans. Bon, alors je dis, entre guillemets, le mot substance, hein, les pensées sont la substance qui se trouve entre le monde terrestre et le monde de l'esprit. Parlons des choses de la terre. En Afrique, j'ai eu l'occasion de voir des mines d'or. Eh bien, je ne sais pas si vous savez, mais je pense que vous le savez, si vous y allez, en tout cas vous allez le voir, il faut trimballer des tonnes de terre et de gravats, de cailloux et de toutes sortes de choses pour tirer quelques grammes d'or. C'est clair que pour obtenir quelque chose de précieux, on doit manipuler une grande quantité de matériaux sans grande valeur. Et ça, c'est dans la vie mortelle, c'est-à-dire dans la vie naturelle, dans la vie terrestre. Quand je vous parle des choses de la terre, si vous ne croyez pas ça, comment vous allez faire pour croire les choses du ciel? Alors souvenez-vous, dans la création, dans la nature, si on observe bien, on peut voir les choses invisibles de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui dit, depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence. évidemment, il faut quand même être un peu intelligent. On peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il a fait, on peut voir de lui ce qui est invisible. Romains 1, 26. Alors, en voyant comment on peut obtenir ce qui est précieux dans la nature visible, on apprend comment on peut extraire ce qui est précieux dans le monde invisible. Il y a une analogie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est analogie, soit vous allez dans le dictionnaire, soit vous écoutez ma prédication de vendredi, j'explique bien. Tout ce que vous faites, mes frères et sœurs, tout ce que nous faisons tous les jours et toute la journée, ça semble être sans grande valeur. On se lève le matin, je me lève, je te bouscule. On se lave, on prend un petit déjeuner, on fait notre lit, et puis on va au travail, et puis on lit la Bible, et puis etc., etc. Et tout ça, ça semble répétitif et même ennuyeux. Je parlais avec un homme l'autre jour qui me dit, moi, j'aime pas lire. Ça, ça me terrifie quand j'entends ça. Ces heures à passer à l'école pour les jeunes, à apprendre des choses dont vous vous demandez si un jour ça va vous servir, je ne vous dirai pas la vérité. Tout ce travail qu'on fait tout le temps, moi je vois les gamins qui partent de bonne heure le matin, c'est terrible. Eh bien, tout cela, ça consiste à remuer des tonnes de gravats, de matières peu précieuses, mais ça a un but. Tout ce travail véritable sert à extraire ce qui est précieux en vous. Alors, il faut le faire. Si personne ne le fait, si personne ne va transporter des tonnes de gravats, ben, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de diamants, il n'y a pas de... Revenons au monde de la pensée, cette substance entre le ciel et la terre. Tant que vous ne savez pas travailler avec vos pensées pour vous contrôler, pour orienter vos énergies, vos pulsions, eh ben, vous attirez à vous toutes sortes de choses qui ne sont pas très bonnes. Mais si vous savez comment faire, alors vous pouvez attirer à vous les bénédictions de Dieu et la présence des anges. Tout ce que vous pouvez obtenir ressemble dans cette vie à des amas de gravats, à des wagons de gravats. Et si vous voyez que ça, eh bien, vous allez être un jour enseveli sous ces gravats et retourner à la poussière d'où vous avez été pris. Et ça, c'est terrible, c'est désespérant. Je connais des gens riches, j'en connais des très riches, qui n'ont pas extrait ce qui est précieux de leur vie, alors ils sont vides. Ils sont vides, ils se sentent pauvres, ils sont inquiets, ils sont angoissés, ils sont insatisfaits. Parce que mes frères et sœurs, ce n'est pas la quantité de matière. Ce n'est pas la quantité de matière qui va vous satisfaire, mais c'est la qualité de la matière qui va vous satisfaire. La qualité. Il faut bien comprendre cela. Ça fait partie du plan... Vous permettez, j'enlève ça. Parce que... Alors, là-dedans, je crois qu'il va falloir arrêter de faire le feu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est terrible. Il faut bien comprendre ça. Ça fait partie du plan rédempteur de Dieu. Par elles-mêmes, vos possessions, vos activités... n'ont aucun intérêt véritable pour vous, c'est-à-dire que vous n'allez rien emmener au ciel, ni en enfer d'ailleurs. Les choses, les situations, vos activités, toutes ces choses-là n'ont d'intérêt que dans la mesure où vous pouvez en tirer ce qui est précieux. Vos possessions, vos activités n'auront de valeur que quand vous leur donnerez un sens. Un sens. Parce que c'est ce sens qui vous alimente, qui vous enrichit, qui vous réjouit. La quantité, c'est le monde physique. La quantité, c'est le monde des gravats, des pierres, de la terre, de tout ce qu'on trimballe, de tout ce qu'on déplace, de tout ce qu'on transforme là en bas, sur cette terre. Mais la qualité, c'est le monde de l'esprit, le sens, la vraie valeur. Aucune réussite, aucune possession matérielle ne peut donner un sens à votre vie. Le sens, c'est plus subtil que la matière. Et c'est en haut qu'il faut aller le chercher. En bas, ici-bas, on trouve des formes. Et alors évidemment, bien sûr, dans les formes, on peut mettre quelque chose. Des sentiments, des émotions, des choses qu'on éprouve, comme par exemple l'orgueil. Vous avez des gens qui ont l'orgueil de la vie parce qu'ils ont une super bagnole, parce qu'ils ont une super maison, parce qu'ils ont une super femme, parce qu'ils ont un super job, parce qu'ils sont beaux, ou je ne sais pas quoi. De l'arrogance, on peut mettre dans les formes toutes sortes de sentiments, d'émotions. Mais très souvent, ces sentiments, ils attirent les indésirables parce qu'ils ne sont pas justes. Vous achetez une belle voiture, par exemple, ça peut vous donner un sentiment de plaisir, une émotion formidable, mais ça sera toujours passager. Ça sera passager. Et quand ce sentiment, cette émotion aura passé, que voilà, vous aurez l'habitude d'avoir cette belle bagnole, et puis que vous avez fait le tour de tous vos amis, puis qu'ils ont tous dit « Ah, t'as une belle bagnole !» Ben voilà, hein, quand on a fait le tour, ben, il faut chercher autre chose au-delà, quelque chose de mieux, qui nous satisfasse encore plus, quelque chose qui va nous redonner encore ce sentiment, cette émotion, parce que c'est passager. Ce que vous devez avoir, ce que vous devez connaître, c'est le sens de tout ça, le sens de votre vie ici-bas. Lorsqu'on atteint ça, le sens, alors on atteint la plénitude. Et c'est ça dont Jésus parlait à la Samaritaine au puits, quand il lui disait, moi j'ai de l'eau qui peut te donner vraiment, qui peut te désaltérer vraiment. Parce qu'elle venait chercher de l'eau là, elle brassait de l'eau, mais elle était obligée de rebrasser le lendemain, etc., etc., parce qu'elle n'avait pas le sens. Elle brassait plein de choses, des maris, elle brassait toutes sortes de trucs. C'était terrible, elle n'était jamais satisfaite cette femme. Et Jésus lui dit, moi j'ai ce qu'il te faut, j'ai une eau qui étanche vraiment ta soif, vraiment. Si tu en bois, tu verras. Et tu vois mon frère, ma sœur, quand tu viens à Jésus, il te donne la vie éternelle, mais ce n'est pas fini, c'est juste le commencement. C'est juste le commencement. Là, tu t'assieds au pied du maître et puis tu écoutes Jésus et tu apprends de lui quel sens il veut donner à ta vie. Quand tu sais quel sens ta vie a ici-bas, alors tu te mets à penser juste parce que tout s'aligne. Et puis tu n'attires plus des indésirables parce que tu n'es plus jaloux, tu n'es plus envieux, tu n'es plus colérique, tu n'es plus ceci, tu n'es plus ça. Tu n'entretiens pas des mauvaises. Tu sais pourquoi tu es là, tu sais où tu vas, tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu bosses, tu sais pourquoi tu fais tes courses. Moi, j'aime pas faire les courses, mais je sais pourquoi je les fais. Il y a un sens, il y a une raison. Je connais le sens. Tu sais pourquoi tu es coincé dans les embouteillages, tu sais pourquoi tu vis ce que tu vis. Tu le sais. Tu as un sens à ta vie, il y a une raison. Tu sais que tu es en train d'amasser des trésors dans le ciel. Ici-bas, tu es en train d'amasser des trésors dans le ciel. Parce qu'à travers toutes ces activités, tu te comportes comme un disciple de Jésus. C'est-à-dire, tu manifestes de l'amour, tu manifestes de la foi, tu manifestes de l'espérance, tu manifestes de la patience, tu manifestes les vertus, les puissances qui sont en Jésus-Christ et qui sont communiquées par le Saint-Esprit et par les anges. Tu sais que rien ne peut te nuire, tu sais, comme David il disait, qui rigolait quand il pensait à ses ennemis. Vous vous rendez compte, puis c'était pas rien ses ennemis. Hein. Tu sais que grâce à tous ces gravats que tu trimbales, que tu es bien obligé de trimballer, il faut bien gagner sa vie, etc. Toutes ces épreuves que tu vis, eh bien tu sais que tu développes un caractère d'épouse divine. Tu sais que tu es en train d'acquérir quelque chose d'une très grande valeur. Tu sais, ton savoir, ta connaissance, c'est ton précieux trésor, ton eau qui te désaltère. Malheureusement, il faut bien reconnaître que dans presque toutes leurs activités, les humains et même les chrétiens ne font que de casser des pierres. Ça me rappelle une histoire qu'on m'avait racontée. C'était deux casseurs de pierres. Ils travaillaient dans une carrière et ils cassaient des pierres, cassaient des pierres. Et puis, il y en a un qui se plaint, qui dit, moi, regarde un peu mes mains, dans quel état elles sont. C'est affreux, ça fait 10 ans que je casse des pierres, c'est une horreur. Ça fait mal partout, j'ai mal partout, je ne m'y fais pas. Puis l'autre, il dit, non, moi, je suis très content du travail. Bon, comment tu peux dire que tu es content? Il dit, oui, moi, je ne casse pas des pierres. Comment ça, tu ne casses pas des pierres? Il dit, non, je construis une cathédrale. Très différent. Il avait un sens, il savait pourquoi. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, ben, ils passent leur temps à casser des pierres, à accumuler des gravats. Et ils n'arrivent pas à extraire de cela ce qui est précieux. Tout devient une routine, casse-pieds, rasoir, même le culte. Il faut se faire violence pour aller au culte, pour aller adorer Dieu, pour aller le louer, pour aller l'honorer, pour aller le glorifier. Hier, Francis me parlait, il me disait que dans l'église où il allait avant, s'il y avait quelqu'un qui avait le malheur de demander quelque chose à Dieu le dimanche matin, le pasteur disait « Hey, y a tout, la réunion de prière, c'est le mercredi soir. Là, c'est pour adorer Dieu. C'est pour lui rendre gloire, c'est pour lui donner, pour l'adorer, lui rendre un culte. » Alors, les gens faisaient attention à ce qu'ils disaient. Hein. Et alors, il y en a même. Alors, vous voyez, ça devient même une routine d'aller au culte. Et puis, on est là, puis on est plaignant, on oublie qu'on est là pour rendre gloire à Dieu. On vient parce que c'est l'habitude d'y aller. Ce qu'ils vont dire. Puis voilà. Bon. Il n'y a que Jésus qui puisse apprendre comment trouver ce qui est précieux. Puis encore, parce que quand Jésus parle, on ne l'écoute pas, ou alors on spiritualise. C'est très vaseux, très bizarre, et on entend du religieux. Alors, pour obtenir ce qui est précieux, il te faut une autre activité que celle de trimballer les gravats. Hein, quand on a sorti toutes les pierres, tous les rochers qui sont dans la mine, il y a un autre travail. Cette activité que tu as à faire, elle se trouve dans un niveau mental supérieur. Il faut étudier les lois qui agissent dans ce monde, étudier, comprendre pourquoi, dans certains cas, dans certaines situations, tu stagnes, dans certains domaines, tu stagnes, alors que tu progresses dans d'autres. Mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Tirer des leçons de ce que tu as déjà vécu. Acquérir une véritable sagesse, étudier les lois de Dieu dans la Bible, étudier les lois de la nature par l'observation, regarder, faire des... Ça se fait dans le calme, dans la paix, dans les moments où tu t'assois, puis tu réfléchis, tu penses, où tu vas te promener dans la nature, tu regardes, tu vois la nature en ce moment, ben on n'est pas surpris, hein, c'est le printemps, ben voilà. C'est normal, c'est le printemps. Pourquoi on sait que c'est le printemps? Parce qu'il y a des cycles. Et tu penses qu'il y a des cycles seulement dans la nature comme ça, mais il y a des cycles aussi dans ta vie spirituelle, mon frère, ma soeur. Et il faut observer ces choses. Il faut demander à Dieu comment ça se passe à ce niveau-là. Il faut penser juste. Et puis soyez juste, soyez paisible en faisant ça. C'est un travail qui ne se fait pas dans la précipitation. Un travail qui se fait dans la précipitation, en général, c'est bâclé. Il y a un petit proverbe qui dit « Qui va piano, va sano ». Comprenez? C'est pas du russe. Pense de façon à attirer à toi, non pas des indésirables, mais des anges. Alors pour cela, ne culpabilise pas, parce que vous avez des gens qui réfléchissent, et puis alors tout de suite, ils disent, oh oui, mais c'est parce que j'ai péché, oh là là, j'ai péché, ça fait tant d'années que je suis converti, puis j'en suis encore que là, mais est-ce que je suis bête? Et puis il y en a, en m'écoutant dire ça, ils disent « Ah ouais Michel, il a raison, qu'est-ce que je suis bête !» C'est terrible, c'est terrible. Ne culpabilise pas si tu vois que tu as fauté, si tu vois que tu as fait quelque chose qui n'est pas clair selon les lois de Dieu et de la nature, ben, confesse cela à Dieu, il est fidèle et juste pour te pardonner, crois qu'il te pardonne, et relève-toi aussitôt, ne traîne pas dans cette situation mauvaise, ça ne fait qu'attirer des indésirables. Et si tu ne fais pas ce travail sur ta pensée, sur ce niveau mental supérieur, si tu ne fais pas ça, si tu ne travailles pas à ton salut, eh ben, tu vas continuer ta descente petit à petit, dans les régions inférieures de ta conscience, et puis tu vas t'auto-flageller, puis après ce sera la faute des autres, etc., etc. Tu vas descendre dans ton enfer, alors que tu pourrais monter dans ton paradis. N'est-ce pas vrai? De toute façon, on va vers l'un ou vers l'autre. Vers notre enfer ou vers notre paradis. De toute façon. Je veux dire, ici-bas, on va dans notre enfer. C'est-à-dire, dans notre enfer, ici-bas, vous avez des gens qui disent, la vie, c'est déjà l'enfer. Mais pour certains, oui. Et pour d'autres, non. Ça peut être un paradis. Tu peux te créer un paradis. Il suffit simplement de veiller à ton jardin, comme je vous disais l'autre jour, intérieur. Le sens de votre vie, vous ne le trouverez pas ni dans votre famille, ni dans votre profession, ni dans l'art, part, ni dans les voyages, ni dans rien du tout. Toutes ces choses de la vie ici-bas, elles peuvent être des moyens qui vous aident à vous approcher du sens de votre vie. Comme par exemple tous les gravats. Ben, sans les gravats, ben, tu ne risques pas de trouver de l'or par-dedans. Hein. C'est utile, c'est un moyen, mais ce n'est pas, c'est pas ça le sens de ta vie. C'est des moyens qui vous aideront à vous approcher du sens de votre vie, mais ce n'est pas ça le sens de votre vie. Alors, selon les lois de Dieu, vous devez bien vivre en famille, être fidèle dans votre famille. Vous devez bien avoir une vie d'église, être loyal dans votre église. Vous avez un métier, il faut être honnête dans votre métier. Tout ça, c'est parce que c'est des lois, puis on est bien obligé de bosser, puis on est bien obligé, puis on est bien content d'avoir une famille, puis on est bien content. Vous faites des voyages, mais faites des voyages qui sont instructifs, qui sont propres, des voyages qui sont bien. Vous pouvez gagner de l'argent, bien sûr, vous pouvez gagner tout l'argent du monde. Si vous êtes honnête, c'est bien. Si ça aide les autres, c'est formidable. Bref. Mais d'abord, ce que Jésus dit, cherchez premièrement ce qui est en haut. Premièrement, ce qui est en haut, avant la famille, avant le boulot, avant le travail, avant tout, cherchez d'abord ce qui est en haut. On va lire Romains 8, 5. Romains 8, 5. En effet, ceux qui se conforment à la chair tendent vers ce qui est charnel, ceux qui se conforment à l'esprit tendent vers ce qui est spirituel. Et la chair tend vers la mort, mais l'esprit tend vers la vie et la paix. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? À quoi tendez-vous? Combien d'heures passez-vous à remuer du gravat? Combien d'heures passez-vous à travailler pour les choses qui périssent? Ah, tiens, ça rappelle un verset. Combien d'heures passez-vous à chercher les choses d'en haut? Le sens de la vie, le vrai sens de votre vie. Combien d'heures vous passez pour la quantité, combien d'heures vous passez pour la qualité? Vous pouvez abattre une quantité de travail extraordinaire, impressionnant, mais à quoi cela sert-il, Jésus dit, de gagner tout ça, si vous perdez votre âme, si vous perdez votre paix, si vous perdez votre salut, si vous perdez... À quoi ça sert? Alors, trouvez le sens à votre vie. On n'est que de passage ici-bas. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons a un sens. Quel sens? Le degré, votre degré de gloire éternelle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vaut la peine que vous gâchiez votre place au ciel? Quelles sont vos occupations ici? Quelles seront vos occupations dans le ciel? Si je vous parle de vos occupations ici-bas et que vous n'y croyez pas, comment vous allez croire quand je vous parlerai de vos occupations dans le ciel? À celui qui était fidèle ici-bas, Jésus dit, dans les petites choses, il lui en sera confié de grandes. De quoi vous occuperez-vous dans votre éternité? Dans le royaume de notre Père Céleste, nos activités seront plus ou moins intéressantes. Elles ne dépendront que de ce que nous aurons fait et été ici-bas. Non pas la quantité, mais la qualité. On se prépare notre éternité. Il y a des gens qui ont très peu de temps pour la préparer. Parce qu'ils meurent jeunes. Puis il y en a qui ont beaucoup plus de temps pour la préparer. Parce qu'ils meurent vieux. Il vaut mieux se mettre à y travailler quand on est jeune. C'est plus facile déjà. Quel sens êtes-vous en train de donner à votre éternité? Quel sens? Toutes nos épreuves, toutes nos activités terrestres serviront à déterminer la qualité de notre éternité. Certains recevront le gouvernement de 10 villes, de ceci, de cela, de voilà. Puis il y en a d'autres moins, puis voilà, puis il y en a, ils seront là. On va lire 1 Corinthiens 3, 14, 15. 1 Corinthiens 3, 14, 15. Si quelqu'un a construit un ouvrage qui résiste, ici-bas, il recevra un salaire. Si l'ouvrage est entièrement brûlé, il en subira le préjudice. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Vous voyez? Là, il est en train de parler de ce qu'on fait ici-bas et des récompenses pour après. Et il dit, celui qui aura construit avec des matériaux vils, c'est-à-dire avec des pensées qui ne tiennent pas la route, avec des pensées de rébellion, avec des pensées de hargne, avec des pensées, avec des ressentiments, avec des jalousies, avec des médisances, avec tout ce que vous voulez, d'impur, toutes sortes de choses. Si vous construisez votre vie, si vous avez tout ça qui vous encombre, vous en subirez des préjudices. Parce que devant Dieu, Dieu est un feu dévorant, et quand vous allez vous présenter devant Dieu, tout ça, ça va cramer, ça va disparaître. Puis il vous restera quoi? Jésus dit... Vous en subirez des préjudices. Alors, il y a des gens qui vont être sauvés, ils vont arriver au paradis, et ils entendront la porte se fermer derrière eux, ils diront « Ouf, je suis sauvé !» Oui, mais alors attention, maintenant c'est l'éternité. Et puis l'éternité comment? Préjudice. C'est-à-dire que j'aurais mieux fait de faire attention avant de passer la porte de l'éternité, quand j'étais sur la terre, j'aurais dû faire attention. Alors maintenant, si tu as des difficultés, de ceci ou de cela, si tu as laissé des indésirables entrer en toi et si tu es empoisonné dans ta vie. Alors, sois conscient que ce n'est pas la faute des autres. Arrête de dire que c'est les autres. Bien sûr que les autres sont aussi responsables de cela, parce que si on ne t'avait pas fait des vacheries, tu ne serais pas rempli de haine, c'est certain. Mais maintenant, ça c'est leur problème, les vacheries qu'ils ont fait, leur problème devant Dieu. Chacun sera jugé pour soi-même maintenant. Toi, comment tu réagis avec ça? Pardonne! Jésus dit, pardonne. Oh, mais Michel, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Il n'y a rien de plus facile. En un clin d'œil, tu peux pardonner. Il suffit de dire, je pardonne. C'est pas compliqué. Mais je vous assure, ça ne changera rien dans la vie de l'autre, mais pour vous, je pardonne. Et chaque fois que vous pensez à la personne qui vous a fait une vacherie, Dieu la bénisse. Que Dieu la bénisse. Au début, ça sera peut-être un petit peu cynique. Hein? Que Dieu la bénisse. Puis petit à petit, ça va devenir une réalité. Que Dieu la bénisse. Je pardonne. C'est une décision. Tout ça, ça ne demande pas des efforts extraordinaires. Non. Je pardonne. Voilà. Non, ça ne veut pas dire que vous allez aller vers la personne qui dit, tu sais, je t'ai pardonné. Hein? Et maintenant, pour redevenir copain. Non, c'est pas de ça dont je vous parle. Laissez-le dans sa mélasse. Mais vous pardonnez. Vous comprenez? Pas compliqué. C'est pas compliqué. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avec nous? Il nous a tous pardonnés. Il a pardonné le monde entier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie sur la croix pour qu'on puisse être pardonné. Il a pardonné le monde entier. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, la justification et la purification du monde entier. Mais... Il pardonne. Mais à la fin, à la toute fin, il y en a quand même qui seront jetés en enfer. C'est pas... Il faut que vous compreniez ça. Il faut que vous pardonniez. Mais si les gens ne veulent pas de votre pardon ou s'ils ne veulent pas avoir une communion avec vous, tant pis, c'est pas grave. Vous avez pardonné, vous êtes en règle avec Dieu. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui est important pour vous. Parce que sinon, vous subirez des préjudices, même au ciel. Oh la barbe, alors c'est déjà si compliqué ici. Si encore en plus au ciel, il faut que ça soit compliqué. Vous voyez? Vous voyez par là que ce que je vous enseigne, c'est vrai. Je ne vous raconte pas des histoires, c'est vrai. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te prie de bien vouloir accorder ta paix à chacun et chacune. Qu'ils puissent véritablement, simplement confesser, qu'ils pardonnent et qu'ils décident maintenant d'extraire ce qui est bon, le sens de leur vie et de s'y attacher. Merci Jésus. Amen. Hier, c'était le 26, c'est ça, hein? Et chez nous, on a le calendrier, c'est Rachel qui nous l'offre hein, chaque année. Alors, calendrier dans la cuisine, et quand je me prépare mon petit café, je lis. Mais je lis ce qui est sur la page 26. Et le lendemain, on enlève et je lis la page 27 que j'ai lue ce matin. Mais, en prenant mon petit café, après avoir lu le 27, le papier 27, je regarde ce qui est écrit derrière le papier 26. Vous me suivez, c'est un peu compliqué, hein? Et donc ce matin, en prenant mon petit café, je lis. Et qu'est-ce que je lis? Écoutez ça. Se conduire dans l'assemblée. Jésus bâtit son église personnellement. La perfection de l'édifice est donc assurée et sera bientôt visible dans le ciel. Pourtant, il est construit sur la terre, hein? C'est dans le ciel. En attendant, chaque chrétien est une pierre vivante et non inerte dans l'édifice. Le Seigneur attend de chacun qu'il participe à la construction d'une façon efficace en lui obéissant. Vous savez ce que vous avez à faire pour obéir après un tel sermon, hein? Chacun trouve ses instructions dans la Bible, en particulier dans les lettres que les apôtres inspirés ont rédigées à notre intention. Il y a un ordre établi par Dieu dans l'assemblée. Les hommes, les femmes, les jeunes, les plus âgés, tous ont une fonction précise et indispensable. Les rôles sont distribués par le Saint-Esprit selon la sagesse et la souveraineté divine. Certains sont visibles et publics, d'autres sont plus cachés. Ma préoccupation doit être de comprendre quel est le mien et le remplir fidèlement. Alors je dis, Seigneur, je suis dans la bonne ligne avec ma prédication quand je dis un truc pareil. Le service de chacun est évalué par le maître d'ouvrage. Hein, il évalue, il regarde et il évalue. Le service de chacun est évalué par le maître d'ouvrage. Si l'ouvrage de quelqu'un aura édifié, si l'ouvrage que quelqu'un aura édifié dessus demeure, oh là là, qu'est-ce que c'est ça ? Ah voilà, si l'ouvrage que quelqu'un aura édifié dessus, donc sur la parole, sur demeure, il recevra une récompense. Si l'ouvrage de quelqu'un vient à être consumé, il en prouvera une perte. C'est le verset que je viens de vous lire. Je m'efforcerai donc d'avoir une contribution positive afin d'être utile à tous. Par-dessus tout, n'oublions pas que le moteur de notre service, c'est l'amour pour le Seigneur et pour nos frères et sœurs. Cet amour qui est le chemin bien plus excellent, 1 Corinthiens 12, 31, le lien de la perfection, Colossiens 3, 14, que tout parmi vous se fasse dans l'amour, 1 Corinthiens 16, 14. Magnifique. Et depuis quelques semaines, je travaille à quelque chose qui va changer notre façon de travailler dans l'Église. Je pense que le temps est venu maintenant pour nous d'honorer déjà premièrement ceux qui ont été servir au marché. Qu'est-ce que vous en pensez? Je demanderai à Francis, Dominique et frère Olivier de s'approcher et on va prier pour eux parce que la belle saison revient. Ils vont pouvoir aller de nouveau prêcher là-bas, mais on va le faire de façon plus efficace. Là, c'était une prise de contact, mais maintenant, on va le faire de façon plus efficace. Vous êtes d'accord? Tout le monde peut dire amen? Alors, on se lève et on prie pour eux. Seigneur Jésus, tu vois le travail qui a été fait. Bon, ça n'a pas été toujours une grande réussite, mais ça a été quelque chose qui a été fait par amour. Maintenant, nous te demandons de mettre ta bénédiction sur cela pour que cela soit une réussite, que des âmes soient sauvées, que des gens soient guéris, que des gens soient rajoutés à l'Église. Au nom de Jésus-Christ, bénis mon frère Francis en cela et qu'il puisse être vraiment un bon dispensateur de ta parole. Bénis mon frère Dominique aussi en cela et qu'il puisse être un bon dispensateur de ta parole au nom de Jésus. Bénis mon frère Olivier pour qu'il puisse aussi être un bon dispensateur de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous remettre une petite brochure que j'ai écrite pour vous, pour vous aider à être plus efficace. Ça va vous bénir. Mais il va falloir l'étudier et on en parlera ensemble et puis on verra comment on va faire les choses de mieux en mieux. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre travail. Dieu vous garde. Amen. Amen. Merci. Merci. Je vous assure. Et c'est pas tout. On va pas s'arrêter là. À partir de dimanche prochain, on va faire un grand changement dans notre culte. C'est-à-dire que chaque frère de la communauté va devoir prêcher ici. On commencera par Francis qui viendra prêcher dimanche. Chaque dimanche, il y aura un homme qui viendra prêcher 5 minutes avant la prédication du pasteur. Ça va? Pour vous exercer à la prédication. Donc, préparez des prédications de 5 minutes chacun, les frères, vous le faites, et vous serez là et vous aurez quelque chose à dire. Alors, on va prier pour que cela se fasse dans la paix, dans l'ordre, et que vous soyez inspirants. Amen. On se lève tous et on prie. Merci Seigneur Jésus de bénir mes frères et de permettre qu'ils puissent apporter à ton Église quelque chose qui fortifie chacun, qui bénit chacun, qui encourage chacun et qui permette que les liens de l'amour soient encore plus resserrés. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que ces hommes soient oints pour le faire. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Donc, vous pouvez vous asseoir. On va commencer par Francis dimanche.